Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Alors, Félix, une femme qui a été arrêtée en lien avec une lettre empoisonnée qui a été envoyée à Donald Trump.
Exactement, et elle a été arrêtée alors qu'elle tentait de se rendre aux États-Unis par voie terrestre en provenance de l'Ontario. Alors, le FBI a confirmé l'arrestation de cette femme-là, l'agence QMI, pour qui nous travaillons, là, a fait ces appels-là, mais on n'a pas fourni d'autres détails. La GRC également refusé de fournir quelques détails, que ce soit. D'ailleurs, c'est un peu dans l'habitude de la GRC d'en dire le moins possible sur des événements souvent d'intérêt public. Pas beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions quand on appelle à la GRC, là. Par contre, dans ce dossier, en fait, on a dû s'en remettre au Buffalo News, parce que c'est le quotidien qui est dans la région de Buffalo, région frontalière avec le Canada. En fait, Buffalo, New York, qui est frontalier, qui est l'État frontalier avec le Canada, un des. On a appris qu'elle a été appréhendée, cette femme-là, sur le Peace Bridge. C'est entre Fort Erie en Ontario puis Buffalo dans l'État de New York. C'est un pont qu'on voit très, très souvent sur les images d'archives à la télévision. Puisqu'il est très long, la superstructure est très belle. Et puis, il est très achalandé, surtout. Et là, attends un peu, en plus de l'avoir arrêté pour avoir menacé de mort, en fait, le président américain, puis avoir envoyé une enveloppe contenant de la ricine. On reviendra sur la ricine bientôt. Lorsqu'elle a été arrêtée, Richard, elle possédait une arme à feu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait faire là. Ce qu'on sait, c'est que le Buffalo News, soit allé à la source dans son rapport, qu'elle va comparaître en cour fédérale aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une Canadienne. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, elle traversait la frontière canado-américaine à partir du Canada. Puis la lettre, je ne sais pas si ça t'a interloqué un peu en fin de semaine, c'est CNN qui nous a envoyé ces images-là. Et lorsqu'on regarde la lettre qui a été envoyée, la lettre très toxique envoyée à Donald Trump, on voit une partie du code postal dans le coin droit, puis là, on distingue H4T, c'est le centre de distribution, normalement, de Ville-Saint-Laurent, là.
Et c'est pour ça que la rumeur voulait qu'elle soit montréalaise.
Ben, c'est parce qu'en tout cas, la lettre a transité par là. Maintenant, c'est vraiment un centre de tri à Saint-Laurent. Je sais pas si tu te rappelles, sous l'administration Bush, quand il y avait les attaques à l'anthrax, entre autres. Bon, ben, souvent, on voyait des déploiements au centre de tri de Ville-Saint-Laurent, puisque c'est de là qu'on évaluait que certaines substances, d'ailleurs, avaient été postées.
C'est comme si Donald Trump ouvrait lui-même son courrier. C'est pas lui qui ouvre son courrier. Il y a des gens autour de lui qui ouvrent son courrier. C'est pas Donald Trump personnellement que tu vas empoisonner. C'est un pauvre employé de la Maison-Blanche que tu vas empoisonner.
Oui, parce que se faire l'image, pardonne-moi l'expression, mais d'un Donald Trump qui sort sur Pennsylvania Avenue, aller à la boîte à mal. Disons que ça serait plutôt étonnant, et qui tombe sur justement un colis ou une enveloppe contenant de la ricine, parce que c'est la ricine dont on parle, le poison le plus violent du règne végétal.
Te souviens-tu, il y a quelques années, il y a un gars qui avait été appréhendé justement à la frontière. Il avait une automobile qui était bourrée d'explosifs et il allait faire sauter, lui, ce qu'il voulait, c'est faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Et c'était un gars de Montréal. Le gars, il avait un commerce au coin de Saint-Laurent et Duluth, si je me souviens bien. Il y avait un commerce de meubles là. Et un jour, il a décidé, lui, de vouloir faire un attentat terroriste. Donc, écoute, il y en a des coucous à Montréal aussi, là.
Ben oui, mais ça, je me rappelle de ça, mais de très, très bien. J'avais fait des reportages là-dessus. Et il avait été, s'il m'a arrêté, si ma mémoire est bonne, à la frontière canado-américaine, mais en passant par Los Angeles, à être possible. Et justement, dans son orbite, si ma mémoire est fidèle, dans son orbite gravitaient des gens comme Adil Sharkawi à l'époque avait dit, certains médias avaient affirmé, et une nébuleuse djihadiste qui voulait effectivement faire sauter l'aéroport de Los Angeles. Ça avait fait les manchettes ici pendant des années. Et effectivement, je me rappelle également de cette actrice texane qui, elle, avait aussi envoyé un poison qui aurait pu s'avérer mortel à Barack Obama. Elle était une militante pour le droit constitutionnel traditionnel, évidemment, de porter ses armes. Et tous les manifestants, puis les activistes qui s'opposaient aux fameux, en fait, les gens qui étaient en faveur de ce qu'on appelle le gun control, aux États-Unis, le contrôle des armes à feu, ben, elle avait écopé 18 ans de prison. 18 ans de prison, puis elle avait envoyé. Parce que là, à un moment donné, quand tu envoies des substances comme ça, puis que tu écris sur l'enveloppe que ça s'en va au président américain, ton intention de tuer,
ben oui.
À moins que tu sois complètement disjoncté, puis que les pneus soient plus dans les jambes, puis que tu aies perdu contact avec la réalité, l'intention de tuer il semble manifeste.
Tout à fait. Écoute, une histoire absolument horrible. Un homme de 80 ans qui a violé, en fait, sa fille de 16 ans, qui l'a mis enceinte. Si je comprends bien, là, si je calcule bien, il l'a eu à 64 ans.
Oui, c'est au chapitre. On n'en fera pas trop souvent, ça, Richard, des manchettes comme celle-là. C'est dégueulasse. C'est vraiment une nouvelle horrible. C'est un octogénaire, un gars qui a agressé sexuellement sa fille de 16 ans, qui l'a droguée, tombée enceinte. Et puis voilà, il a été accusé de ça. Et on a dit que le crime au palais de justice de Longueuil était extrêmement grave, j'espère. Le juge qui préside l'affaire, Stéphane Godry, avait l'air, si je me fie aux articles de Michael Nguyen du Journal de Montréal là-dessus, a justement penché vers le fait qu'il s'agisse d'un récit d'horreur. Alors tout ça s'est survenu sur la rive sud de Montréal, puis ça a été mis à jour assez récemment. En fait, il y a une adolescente qui s'est présentée à un poste de police, la SQ, cet été. Évidemment, on peut pas parler de la victime, on peut pas l'identifier, et c'est bien sûr, et c'est normal. Elle était en état de choc, elle comprenait pas ce qui se passait, elle pleurait, et elle n'avait eu juste qu'une relation sexuelle dans sa vie un an plus tôt, puis on comprend ce qui s'est passé, cette seule relation-là, c'était probablement la relation avec son propre
parent. Il y a vraiment des familles, il y a vraiment des familles toxiques. Lorsqu'on pense aussi à cette histoire là, des deux pasteurs, le pasteur et sa femme, qui ont violenté, frappé, agressé physiquement leurs enfants pendant des années, tellement que la fille avait tellement peur de son père qu'elle a témoigné. Moi, ça m'a beaucoup touché. Elle a témoigné derrière un paravent, parce que même si elle a 42 ans, elle a quand même peur encore de croiser le regard de son père. T'imagines ça, là, c'est incroyable. Des fois, tu te promènes en auto, là, puis tu vois des maisons, puis on sait pas ce qui se passe dans ces maisons-là derrière, mais il y a des gens qui vivent vraiment l'enfer, et il y en a beaucoup trop de ce genre d'histoire-là.
Oui, je suis bien d'accord avec toi. Puis moi, ça me confronte quand je me promène sur la rive sud, puis je vois certaines maisons. Tu sais, quand je dis que ça me confronte, je dis pas que je juge quoi que ce soit. On est loin, loin de là. Je suis sûr que tu as la même opinion que moi, mais on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que parfois, souvent, on serait surpris de voir qu'il se passe juste des belles choses avec des gens qui tentent de joindre les deux bouts avec deux, trois boulots, puis faire vivre les enfants tant bien que mal, mais dans une petite proportion, peut-être qu'on serait aussi extrêmement
Écoute, baisse du trafic aérien. Donc, il y a un texte là, en 5 minutes dans le Journal de Montréal, justement, aujourd'hui, qui explique tous les tenants et les aboutissants de ça.
Oui, je trouvais ça le fun de t'en parler, parce qu'on s'est parlé, justement, on a discuté d'aéroport ensemble la semaine passée, puisque j'ai fait ma ronde de quoi, là, même depuis cet été. Tu vois, cet été, j'ai fait Montréal-Trudeau, j'ai fait Charles de Gaulle en France, j'ai fait El Prat à Barcelone. La semaine dernière, j'ai fait Newark au New Jersey et Fort Lauderdale, et ensuite Chicago. Alors là, j'ai remarqué, je trouvais ça intéressant de t'en parler parce que c'est un monde presque surréel de voir un aéroport qui n'est quasiment pas fréquenté, dans lequel il y a quelques vols par jour et c'est tout. C'était le cas de Montréal-Trudeau. Alors, il y a des chiffres là-dessus. Et puis, c'est dans les pages en 5 minutes qu'on voit dans le journal. Des pages qui sont toujours très populaires. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'elles sont hyper bien faites.
Tout à fait.
Alors, commençons par Pierre-Éliott Trudeau. L'activité a chuté de 97% depuis le début de la pandémie. 97, en raison beaucoup, beaucoup aussi de la demande de mise en quarantaine des voyageurs qui arrivent au Canada. Donc, la facture là pour les aéroports, parce que ça a été un sondage qui a été commandé par une association d'aéroports, si tu veux, qui est basée à Montréal, parce qu'on a beaucoup d'aviation civile ici, on pense à l'IATA et tout ça. C'est 100 milliards de pertes juste pour 2020. Alors, si tu vois, là, pour l'Europe, je trouve ça intéressant parce que là, les chiffres sont ventilés, là. Pour l'Europe, là, les pertes sont incroyables. Les destinations de l'Asie Pacifique aussi, Amérique du Nord, beaucoup. Moyen-Orient, c'est moins pire. Les Caraïbes, ça fonctionne encore. Et en Afrique aussi, il y a beaucoup moins de cas de COVID. Et là aussi, on voyage quand même.
Je serais curieux de voir, je sais pas, toi qui as beaucoup voyagé, tu es certainement passé à un moment donné par l'aéroport d'Heathrow en Angleterre, qui est, je crois, le plus gros aéroport au monde. En tout cas, c'est une ville. C'est quasiment une ville. Et ça doit être assez particulier aujourd'hui de se promener là-dedans et de voir très, très, très peu de gens. Les aéroports qui sont vraiment comme totalement déserts, ça doit être assez spécial.
Ben oui, je l'ai vécu la semaine passée à Chicago. Si tu veux, Chicago, je pense que c'est Atlanta. Si ma mémoire est bonne, c'est l'équivalent nord-américain là, de Heathrow. Je pense qu'on compte ça okay. beaucoup en nombre de déplacements. Évidemment, l'achalandage des aéroports, Heathrow est un des plus importants au monde, mais pour l'Amérique, il y a Atlanta puis Chicago. Et quand on était à Chicago la semaine passée, je veux dire, il n'y a plus de chaises pour s'asseoir dans les salles d'attente. Tu sais, quand tu es à ta porte pour attendre ton embarquement, il n'y a plus de chaises. Donc, tout le monde s'assoit un peu n'importe où dans les dans les corridors des aéroports. On dirait qu'on a enlevé une partie du mobilier. On a fermé à peu près tous les commerces. Et quand tu regardes, ce qui frappe, c'est quand tu regardes le tableau des destinations et puis que tu te rends compte qu'il y en avait plusieurs centaines avant, puis qu'aujourd'hui, tu sais, je veux dire, il y a 4 ou 5 vols qui partent pour le Canada, ça m'avait beaucoup frappé.
Écoute, en terminant, je parlais de ce petit garçon-là qui est mort là, suite à absorption de drogue chimique, il avait 19 ans. Sa mère qui disait, s'il avait pu acheter du pot à la SQDC, si on avait accepté là, que ça soit 18 ans au lieu de 21 ans, ben il aurait pas été allé voir un pusher, puis peut-être qu'il n'aurait pas justement consommé des drogues chimiques. T'en penses quoi?
Content que tu en parles et content que tu as écrit là-dessus en fin de semaine. J'ai bien lu ta chronique, puis en quelques mots, tu te posais des questions qui sont à propos sur l'investissement de Justin Trudeau en santé publique pour combattre les problèmes de consommation. Et la vérité, c'est qu'il y en a très peu. On a légalisé, mais on n'a pas décriminalisé. Je sais qu'on parle souvent du Portugal, mais c'est parce que ça reste le meilleur exemple. Le Portugal a décidé de décriminaliser tous les types de drogue, je te parle même de l'héroïne aussi, et on a décidé de traiter l'affaire et de voir l'affaire sous la lorgnette, par la lorgnette, du problème de santé publique.
Ben oui.
Et jusqu'à maintenant, ça vient à se tenir en quelques phrases, tout ça, ce que tu dis, c'est qu'on est bien mieux de superviser quelqu'un qui va consommer de le laisser aller à lui-même.
Tout à fait.
Avec des coucheurs qui vont lui vendre n'importe quoi.
Et Justin Trudeau, il était censé de prendre une partie de l'argent amassé par la vente de drogue pour mettre ça en prévention, pour mettre ça en soins. Je serais très curieux de savoir combien de pourcentage de cet argent-là est effectivement mis là-dedans. Quelque chose me dit que c'est pas beaucoup. Merci. Passe une excellente journée, Félix. Merci beaucoup.
À demain.
Salut, Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et Journal de Québec.